Toi, Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Eric Manelakidze à la présentation de cette édition du vendredi 27 août 2021. Voici d'abord le sommaire. Au moins 85 morts, dont 13 soldats américains dans les attaques hier aux abords de l'aéroport de Kaboul. Joe Biden promet des représailles. Un concert de condamnation dans le monde, le Conseil de sécurité de l'ONU souligne que des auteurs doivent être traduits en justice. Le Premier ministre israélien Naftali Bennett doit rencontrer le président Biden ce vendredi au lendemain de l'attentat meurtrier à Kaboul, au Nigeria. Libération de dizaines d'élèves kidnappés et 6 morts en captivité dans 10 minutes. Vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Le bilan de l'attentat ayant visé l'aéroport de Kaboul et revendiqué par le groupe État islamique s'est alourdi à 85 morts, dont 13 soldats américains. Malgré cela, les évacuations ont repris ce vendredi. Le point avec Abdulrahman Dia.
Il y a beaucoup de femmes et d'enfants parmi les victimes. La plupart des gens sont choqués, traumatisés, a déclaré un responsable de l'ancien gouvernement afghan renversé par les talibans. Mais plusieurs sources craignent un bilan plus lourd. Les hôpitaux ont été assaillis ce vendredi de personnes cherchant leurs proches disparus depuis la veille à l'aéroport. La situation semble calme à Kaboul, autour de l'aéroport où les vols affrétés par les Occidentaux ont repris. L'OTAN et l'Union européenne ont appelé après l'attentat à poursuivre les évacuations. La France a indiqué qu'elle pourrait les poursuivre au-delà de ce soir, tout en se voulant prudente au vu du contexte sécuritaire incertain. L'Espagne et la Suède ont annoncé avoir terminé leurs opérations d'évacuation, tout comme l'Allemagne, les Pays-Bas, le Canada et l'Australie. Les Britanniques promettent d'achever leur mission ce vendredi. Le gigantesque pont aérien a permis d'évacuer plus de 100 000 étrangers et afghans.
Les forces armées américaines qui contrôlent l'aéroport de Kaboul seront en mesure de poursuivre les évacuations jusqu'au dernier moment, a assuré vendredi le Pentagone. Hier soir, le président Joe Biden a dit clairement que cette attaque ne restera pas impunie. La correspondante de la VOA au Pentagone, Carla Babb, fait le point. Le récit, Nathalie Barge.
Chaos à Kaboul. Tout d'abord, un kamikaze frappe la Bay Gate de l'aéroport. Quelques minutes plus tard, un deuxième attentat suicide à l'hôtel Baron, à environ 200 mètres. Des dizaines d'Afghans et au moins 13 militaires américains ont été tués. Le groupe État islamique a revendiqué la responsabilité des attaques. Le président américain Joe Biden a juré de se venger.
Pour ceux qui ont mené cette attaque, ainsi que tous ceux qui souhaitent du mal à l'Amérique, sachez ceci, nous ne pardonnerons pas, nous n'oublierons pas, nous allons vous traquer et vous faire payer.
Le général qui supervise le retrait des troupes américaines en Afghanistan a déclaré aux journalistes du Pentagone que les évacuations d'Américains et d'Afghans vont se poursuivre. Frank McKenzie, chef du commandement central des États-Unis.
ISIS will not deter us from accomplishing the mission. I can assure you of that.
ISIS ne nous dissuadera pas d'accomplir la mission, je peux vous l'assurer. Nous pensons qu'ils ont l'intention de poursuivre ces attaques et nous nous attendons à ce que cela continue.
Les forces américaines ont sécurisé l'aéroport. Des responsables confirment la coordination avec les militants talibans qui occupent des zones à l'extérieur du périmètre. Mais la mission est extrêmement dangereuse et les responsables militaires disent que même si personne ne veut laisser des gens derrière, terminer l'évacuation le plus tôt possible sera le mieux.
Cette attaque de Kaboul a provoqué plusieurs réactions dans le monde. Le point sur ces réactions avec Nani Tetalani.
La Chine a fermement condamné l'attentat commis hier à l'aéroport de Kaboul. Pékin se dit sous le choc, ajoutant que cet attentat montre que la situation sécuritaire en Afghanistan demeure complexe et grave, appelant les parties concernées à prendre des mesures pour garantir la sécurité du peuple afghan et des citoyens étrangers. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a affirmé vendredi que les prédictions pessimistes estimant que des terroristes, avant tout le groupe État islamique, vont sûrement profiter du chaos en Afghanistan. Le danger est grand pour tout le monde et cela reste notre plus grand motif de préoccupation, a-t-il souligné. La chancelière allemande Angela Merkel dénonce un acte absolument ignoble. Elle soutient que ces événements montrent que le risque est immense et qu'il s'agit d'une situation très très tendue pour faire sortir les gens du pays. Dans un communiqué, le président français Emmanuel Macron a exprimé ses condoléances aux familles des victimes américaines et afghanes avant de promettre que la France mènera ses opérations à terme. Les Nations Unies ont souligné la nécessité pour les auteurs, organisateurs, financiers et parrains de ces actes terroristes de rendre des comptes et de les traduire en justice. L'instance onusienne a appelé toutes les parties concernées à respecter et faciliter l'évacuation en toute sécurité des civils.
Environ 5400 personnes réfugiées dans l'aéroport de Kaboul attendent toujours d'être évacuées, a affirmé vendredi un général américain. L'attentat suicide qui a endeuillé ces opérations a été perpétré par un seul auteur, a précisé le général Hank Taylor. Le Pentagone avait dans un premier temps fait état de deux explosions. Le gouvernement britannique a reconnu vendredi avoir commis une erreur lors de l'évacuation de son ambassade à Kaboul. Un journaliste du Times a trouvé sur le sol les informations personnelles de plusieurs employés afghans qui seront potentiellement en danger de représailles. Nous reviendrons sur l'Afghanistan, le groupe État islamique et les talibans dans la partie magazine.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Des dizaines d'élèves dans un séminaire islamique de l'ouest du Nigeria, enlevés il y a près de 3 mois, ont été libérés, a annoncé jeudi le directeur de l'école. Mais 6 sont morts en captivité. Le point avec Rosine Munezero.
Le directeur de l'école, Aboubakar Alassane, n'a pas fourni de détails sur cette libération ni précisé si une rançon avait été versée. Les élèves ont tous été libérés. « Nous sommes en train de les ramener chez eux », a déclaré M. Alassane. « Je ne peux pas vous donner un nombre exact maintenant, mais aucun des élèves n'est en captivité. 6 élèves de Teguina sont morts en captivité et 15 ont réussi à s'enfuir en juin, selon la direction de l'école. Un émissaire envoyé début août par les parents pour remettre une rançon de 61 000 euros en échange de la libération des enfants était revenu bredouille. Depuis décembre, le Nigeria a subi une série d'enlèvements de masse dans des écoles et des universités. Environ 1 millier d'écoles et d'étudiants ont été enlevés.
Le Burkina Faso, en proie à des violences djihadistes depuis 2015, entend réformer son système de défense pour mieux y faire face, a annoncé vendredi le ministre délégué à la Défense nationale, le général Aimé Barthélémy Simporé. Sous les orientations du chef de l'État, Roque Marc-Christian Caboret, également ministre de la Défense, le gouvernement va revoir l'organisation structurelle et opérationnelle des forces de défense et de sécurité nationale, a déclaré le général Simporé lors d'une conférence de presse à Ouagadougou. Les autorités maliennes ont levé toutes les mesures restrictives imposées aux anciens présidents et premiers ministres de transition Bandao et Mokhtar Ouane, évincés le 24 mai par les militaires et depuis maintenus en résidence surveillée selon leur entourage, a indiqué la CDAO vendredi. Le comité instauré pour suivre la transition ouverte après un premier coup d'état militaire en août 2020 se félicite de la décision du gouvernement de lever toutes les mesures restrictives concernant M. Bandao et Mokhtar Ouane, a indiqué dans un communiqué la CDAO, médiatrice dans la crise malienne. 5 civils ont été tués vendredi dans une attaque dans un village de la région de Beni dans l'est de la RDC par des rebelles du groupe armé d'origine ougandaise Force démocratique alliée ADF. Ce bilan est provisoire, a déclaré Kalule Kalunga, chef du groupement Bouliki dans le secteur de Rwenzori au sud-est de la ville de Beni. L'Ouganda a déclaré vendredi avoir déjoué un attentat suicide visant les funérailles nationales d'un haut commandant de l'armée qui avait dirigé une importante offensive de l'Union africaine contre les insurgés d'Al-Shabaab en Somalie. Les forces de sécurité ont arrêté jeudi un homme dans la ville de Pader, dans le nord du pays, où se tenaient vendredi les funérailles du général de la division Paul Lokesh, surnommé le lion de Mogadiscio. Le suspect a été trouvé avec tout un attirail servant à fabriquer une bombe, a déclaré la porte-parole de l'armée Flavia Biekwaso, précisant qu'il s'agissait d'un ressortissant ougandais, Katumba Abdul. Des agents de sécurité gouvernementaux ont brièvement interpellé 3 journalistes au Soudan du Sud et fermé leur radio vendredi, ont annoncé un groupe de défense des droits de l'homme et un syndicat en lien avec une manifestation prévue lundi. Une coalition issue de la société civile a appelé à une manifestation citoyenne dans tout le pays et à la démission des dirigeants. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco présentée par Rosine Munezero.
La Minute Éco avec Rosine Munezero. Au Kenya, la taxe additionnelle appliquée depuis le 1er juillet dernier sur chaque paire de chaussures importées vient d'être supprimée. La mesure prévoyait le prélèvement sur chaque paire de chaussures entrant sur le territoire, soit 1,5$ sur les articles en cuir et 1$ sur les accessoires de sport. Ceci, en plus du tarif extérieur commun de la communauté d'Afrique de l'Est qui fixe un droit de 25% sur les chaussures entrant dans le marché commun. Au Togo, la Banque mondiale a approuvé le décaissement de 60 millions de dollars de l'Association internationale de développement, IDA. Ce fonds va soutenir le plan sectoriel de l'éducation 2020-2030 du gouvernement togolais et prendra en compte la scolarisation des filles. En Afrique du Sud, la société Blue Label Telecoms Limited a annoncé à ses actionnaires la signature d'un accord de principe avec plusieurs banques pour recapitaliser l'opérateur Telecoms Celsi Limited, dont elle détient 45% d'actions. Malgré les résultats positifs de Blue Label, les pertes se sont accentuées. La société Telecoms a perdu plus de 60 millions de dollars en 2018, et plus de 300 millions de dollars en 2020.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir à tous. Le sélectionneur de l'Algérie, Jamal Belmadi, a dévoilé ce vendredi sa liste de joueurs retenus pour affronter Djibouti le 2 septembre et le Burkina Faso le 9 septembre à l'occasion des 2 premières journées des éliminatoires du Mondial 2022. Selon Foot Afrique, il n'y a pas de grosses surprises ni de nouveaux visages à signaler pour le technicien qui mise sur la continuité et convoque Delort, auteur d'un bon début de saison, mais en instance de départ à Montpellier. Les cadres Mahrez, Mandi, Benasser, Feghouli, Belaïli et Bounedidia sont là, à l'inverse d'Ounas, victime de la forte concurrence. Et Sadio Mané, lui, figure bien sur la liste des 25 lions sénégalais retenus pour ces éliminatoires malgré le blocus de l'Angleterre. Les lions doivent affronter les éperviers du Togo ce 1er septembre à Thiès et les diables rouges du Congo le 4 septembre à Brazzaville. Les cadres du groupe sénégalais seront là, à l'exception de Keïta Baldé, en instance de départ à Monaco, note Foot Afrique. Et puis c'est l'information de ce vendredi, Manchester United a trouvé un accord avec la Juventus Turin pour le transfert de l'attaquant star Cristiano Ronaldo, qui a déjà porté le maillot des Red Devils entre 2003 et 2009, annonce le club anglais ce vendredi. Le buteur de 36 ans, quintuple Ballon d'Or, a notamment remporté la Ligue des Champions en 2008 avec Manchester United, ainsi que le championnat d'Angleterre 3 fois, 2007, 2008 et 2009. Ligue Europa, si Tottenham tombe dans un groupe relevé avec Rennes et Vitesse Arnhem, le tirage au sort vendredi à Istanbul a été plus clément pour l'autre favori de la toute nouvelle C4, l'AS Rome. La Roma devra batailler avec le CSKA Sofia, le Zorya Luhansk d'Ukraine, le champion de Norvège Bodo Glimt. Et puis enfin, le défenseur international français de Manchester City, Benjamin Mendy, 27 ans, accusé de 4 viols et une agression sexuelle, a été placé en détention provisoire, a décidé vendredi la justice britannique. Il est accusé d'avoir commis l'un de ces viols en août, alors qu'il était en liberté conditionnelle. Les attaques présumées concernent 3 personnes, dont une mineure.
C'était les sports de Bagassikour. Vous êtes à l'écoute du Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manirakiza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Les évacuations d'étrangers et d'Afghans ont repris à l'aéroport de Kaboul le lendemain de l'attentat revendiqué par le groupe djihadiste État islamique qui a fait au moins 85 morts, dont 13 soldats américains. La branche afghane du groupe État islamique a revendiqué ses attaques en Afghanistan. John Lindon a joint Bernard Eichel, professeur à Princeton University.
L'État islamique au Khorasan est une branche qui dépend finalement, qui a reconnu le califat de l'État islamique en Irak et en Syrie. Donc idéologiquement, théologiquement, ils sont assez différents des talibans qui appartiennent à une autre branche de l'islam du point de vue théologique et idéologique. Ils ont des commandants qui sont complètement différents, des références qui sont différentes et ils sont beaucoup plus actifs contre d'autres musulmans que les talibans. Les talibans sont vraiment visent surtout les étrangers, surtout les Américains et les troupes de l'OTAN, tandis que l'État islamique en Afghanistan vise des chiites, d'autres Afghans que eux considèrent comme des infidèles.
Alors, les attentats de ces derniers jours avaient pourtant été annoncés, ou du moins plusieurs pays occidentaux, y compris les États-Unis et la Grande-Bretagne, redoutaient qu'ils pourraient avoir lieu.
Je crois que, en fait, c'est une faillite des renseignements de l'armée américaine et aussi de la classe politique américaine, qui vraiment a très mal géré toute l'occupation de l'Afghanistan depuis 2001. Maintenant, ces attentats ont été faits par l'État islamique parce que, en fait, l'État islamique dit que les talibans n'avaient pas à négocier avec les Américains. Ils sont contre les talibans et la façon dont ils gèrent le départ des Américains.
Alors, vous parlez de 2001, 20 ans après les attentats du 11 septembre. On parle toujours des talibans. Le monde est-il plus en sécurité aujourd'hui ou l'on a fait du surplace?
Écoutez, je crois qu'il est plus en sécurité en termes de grands attentats comme ceux qu'on a vus le 11 septembre, c'est-à-dire des attentats d'avions, de plusieurs avions, du nucléaire. Je crois qu'on est beaucoup plus en sécurité maintenant parce qu'en fait, on a changé notre mode de vie en Occident et partout dans le monde. Aussi, tous les services des renseignements de tout le monde traquent maintenant les islamistes. Mais on n'est pas plus en sécurité en termes d'actes privés, d'actes de djihadistes en privé, c'est-à-dire quelqu'un qui va prendre un couteau ou une mitraillette et attaquer des civils, que ce soit à Paris ou à New York ou même dans le monde musulman. Donc la privatisation de la violence djihadiste est beaucoup plus répandue aujourd'hui qu'elle l'était avant.
Et ce qui se passe en Afghanistan aujourd'hui, peut-il avoir un impact quelconque sur le mandat de Joe Biden ou sur les élections de mi-mandat ici aux États-Unis?
Là, ce n'est pas très clair, en fait, parce que les Américains, en général, le peuple américain en a marre de ces guerres interminables à l'étranger. Donc, je crois qu'en principe, les Américains sont en général heureux et contents ou satisfaits qu'il n'y a plus de présence militaire en Afghanistan, même si cette présence, en fin de compte, ne coûtait pas très cher. Mais en même temps, les images qu'on voit, qui sont vraiment très parallèles aux images qu'on avait vues au départ des Américains du Vietnam en 1975, ces images vont être utilisées par les ennemis politiques de Joe Biden. Et je crois que ça va avoir une influence sûrement, parce que ça montre que l'Amérique est très faible, que le leader des Américains est quelqu'un d'incompétent. Et je crois que c'est des thèmes que les républicains, par exemple, vont utiliser beaucoup contre l'administration Biden.
Bernard Haykel, professeur à Princeton University. Le premier ministre israélien Naftali Bennett doit rencontrer ce vendredi le président Biden, un jour de retard en raison des événements en Afghanistan. Ce sera une première que les deux hommes ont pris leur fonction. Bennett a rencontré hier le secrétaire d'État Anthony Blinken et le patron du Pentagone Lloyd Austin. En tête de l'agenda pour Israël, il faut s'assurer que l'Iran ne devienne pas une puissance nucléaire. Un reportage de Linda Greenstein depuis Jérusalem. Le récit avec Michel Claire-Joseph.
Selon les médias israéliens, la première visite de Naftali Bennett à Washington depuis son entrée en fonction en juin a bien démarré. Les analystes soulignent que l'un des objectifs de Bennett est de créer une relation personnelle avec le président américain Joe Biden. Avant sa rencontre mercredi avec le secrétaire d'État Anthony Blinken, Bennett a déclaré qu'il espérait aider les États-Unis à comprendre l'attitude d'Israël envers l'Iran.
J'apporte d'Israël un nouvel esprit, un esprit de gens qui entretiennent parfois des opinions différentes, mais travaillent ensemble dans la coopération et la bonne volonté.
Naftali Bennett estime que les États-Unis et Israël pourraient ne pas être complètement d'accord sur la question de l'Iran en tant que puissance nucléaire. Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a averti que l'Iran pourrait n'être qu'à 2 mois du développement d'une bombe nucléaire.
And this is the same spirit that, you know, I want to bring to our relationship of cooperation.
Et c'est le même esprit que, vous savez, je veux apporter à notre relation de coopération, de bonne volonté, d'amitié. Nous allons parler d'un tas de problèmes principalement. Comment repousser et réduire l'Iran dans sa poursuite pour dominer la région.
Les États-Unis négocient avec l'Iran le renouvellement d'un accord nucléaire dont l'ancien président américain Donald Trump s'est retiré en 2018. Israël craint qu'un accord renouvelé ouvre la voie à l'Iran pour devenir légalement une puissance nucléaire. La réunion se déroule également dans le contexte du retrait chaotique des États-Unis d'Afghanistan. Le colonel Eldad Shavit, un ancien haut responsable du renseignement israélien, affirme qu'un responsable israélien avait informé les journalistes des réunions de Bennett qui étaient accompagnées d'assurances américaines.
Il a dit que les Américains n'allaient pas abandonner le Moyen-Orient et ne vont pas abandonner Israël. Et bien sûr, les Américains sont attachés à la sécurité d'Israël. Je pense que tout va bien, mais la question est de savoir comment ils vont le faire et comment les partenaires au Moyen-Orient vont traduire la politique américaine et quelles seront les implications sur leur politique, l'Iran, le Hezbollah et d'autres partenaires.
Israël cherche également à calmer la situation tendue à la frontière de Gaza et le Hamas en autorisant des marchandises et du matériel supplémentaire à entrer à Gaza et augmenter le nombre de travailleurs de Gaza autorisés à entrer en Israël. Lors d'une manifestation mercredi, des partisans du Hamas ont tenté de maintenir l'ordre. Plus tôt cette semaine, un soldat israélien a été grièvement blessé à la frontière, ainsi qu'un garçon palestinien de 13 ans.
L'armée malienne continue de se battre contre les groupes djihadistes qui occupent de larges parties de son territoire nord et centre depuis 2012. Et dans cet effort, elle reçoit le soutien des pays de l'Union européenne, notamment en termes de formation et d'équipement à coût de millions d'euros. Ces appuis tiennent-ils suffisamment en compte les questions des droits de l'homme? Bagassi Koura a joint Emmanuel Freudenthal, journaliste d'investigation au magazine The New Humanitarian.
Cet appui, notamment au niveau de l'UE, était sans vérification, sans savoir si les soldats qui bénéficient des formations ou des équipements de l'Union européenne ont commis des abus, des violations, ont tué des civils. Et donc ça pose problème à la fois au niveau de la gouvernance et de l'argent de l'Union européenne, mais aussi en termes de l'impact que ça a sur le conflit, puisque le recrutement des djihadistes utilise les bavures de l'armée malienne. Il y a très très peu de cas, ou quasiment aucun cas, où les soldats sont ensuite poursuivis pour les bavures qu'ils ont commises.
Et vous dites que l'Union européenne n'en fait pas vraiment un problème?
La personne responsable de l'Union européenne en charge de ce projet, j'ai interviewé à Bamako, dit que ça ne fait pas partie de leur mandat, en fait, de vérifier si les soldats maliens ont commis des bavures avant d'aller dans leur formation, ou si à la sortie de leur formation, ils le font, ils se remettent en fait aux officiers et à la hiérarchie de l'armée malienne. Et comme il y a très peu de procès ou d'enquêtes même réelles sur ces bavures, on en revient au même.
Avec tout ce qu'on entend de Kaboul ces dernières semaines, on a beaucoup parlé de l'Afghanistan et une comparaison avec le Sahel. Quels sont les éléments que vous avez dans ce sens-là?
Oui, donc il faut savoir aussi que l'armée malienne essuie de nombreuses pertes face aux djihadistes, et que jusqu'ici elle a obtenu un grand appui de la part de l'armée française, de la part de Barkhane. Et Barkhane en ce moment se retire progressivement, retire ses troupes du Sahel, ce qui, pour laisser la place en fait à l'armée, aux armées du G5 Sahel, et notamment donc aux armées des pays du Sahel, en essayant de convaincre d'autres pays européens de venir appuyer la lutte contre les djihadistes à travers la force Takuba. On peut penser que si l'Europe, si la France se retire, on pourrait se retrouver dans une situation similaire à celle de l'Afghanistan.
Emmanuel Friedenthal, journaliste d'investigation au magazine The New Humanitarian, joint à Nairobi au Kenya.
Restez avec nous à Bamako au Mali sur le 102 FM CVO Afrique 24h sur 24.
Au Congo-Brazzaville, réception cet après-midi de plus de 300 000 doses du vaccin Johnson & Johnson, un don du gouvernement américain. Les autorités congolaises estiment que ces nouvelles doses vont contribuer à augmenter le nombre de personnes vaccinées dans le pays. Les détails avec Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
Ces vaccins arrivent au moment où le pays est en pleine campagne de vaccination contre la COVID-19 et quelques 500 000 personnes ont déjà été vaccinées. Les 302 400 doses de Johnson & Johnson vont également régler le problème de la diversité des vaccins tant demandés dans le pays où il n'y avait encore que le russe Sputnik V et le chinois Sinopharm. Docteur Alexis Mourou Moyoka, directeur du programme national de vaccination, parle enfin d'une immunité collective en perspective.
C'est que cela va accélérer la vaccination parce que chaque personne vaccinée sera immédiatement déclarée comme étant une personne complètement vaccinée. Et c'est le nombre de personnes complètement vaccinées qui permettent justement de dire que notre pays est en train d'avancer vers l'objectif de l'immunité collective. Vous savez que nous devons, d'ici décembre 2021, atteindre 30% de notre population et que d'ici fin août 2022, nous devons atteindre 60% de notre population. Et c'est le premier lot de vaccins que notre pays reçoit dans le cadre de la facilité COVAX.
Après avoir remis le don américain aux autorités congolaises, la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis à Brazzaville, Hélène Thorburn, plaide pour la reprise d'une vie normale.
C'est qu'on est vraiment les partenaires avec la République du Congo, qu'on veut aider les gens, contribuer à la lutte contre le COVID-19. On a fait ça depuis le début avec le Congo et on va continuer.
Selon le Premier ministre Anatole Coliné-Makosso, plus de 10% de la population cible a déjà été vaccinée au Congo, ce malgré la persistante réticence de la jeunesse. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Joselle Morissin, Georges Léonard Sagno, Michel, Claire Joseph. Eric Manirakidz a été avec vous à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24 heures sur 24, restez branchés sur voafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. À la prochaine.